suis arrivé en janvier 73, oui, c'est ça, 1973. Oui. Il y avait une commission, je me souviens très bien, il y avait Henri Dutilleux et puis Raymond Galois-Montbrun. Il y avait le colonel Herlem qui commandait la garde à l'époque, et puis il y avait le général Robitaillé qui était l'inspecteur général et qui présidait ce jury. Bon, j'arrive, je me présente. Justement, ce général me dit, écoutez, bon, on vous connaît, vous avez déjà fait une carrière de pianiste, vous êtes chef d'orchestre, vous avez dirigé beaucoup d'orchestres, vous êtes professeur au conservatoire, vous êtes compositeur. Alors je vous demande, qu'est-ce que vous venez faire ici? Je ne m'attendais pas du tout à une question pareille. Alors je ne sais plus du tout comment je me suis tiré de ce mauvais pas, mais enfin, ça s'est bien passé, visiblement. D'abord, je connaissais beaucoup de musiciens. Et puis, je savais qu'il y avait donc cet orchestre d'harmonie et cet orchestre à cordes. Et puis, que devenir le patron musical d'une formation comme ça, c'était intéressant. Et dans l'orchestre, il y avait en somme trois générations, si vous voulez. Il y avait donc les anciens qui étaient là et qui avaient connu mon père, vous savez, donc, qui était musicien, c'était en mode solo de l'Orchestre national. Il y avait les copains du conservatoire, qu'est-ce qu'il y avait, Marcel Nollet, enfin, des gens que vous connaissez comme ça. Et puis, il y avait même un élève qui était passé par la classe, c'était le jeune tromboniste Verstraete. Donc, il y avait trois générations d'amis, si je peux dire comme ça. C'était vraiment intéressant à tout point de vue, parce que, donc, du côté de l'harmonie, on pouvait reprendre des œuvres et les remettre un petit peu au jour. Et il y avait l'orchestre à cordes, où il y avait aussi un répertoire intéressant. Et puis, il y avait l'idée de travailler et écrire des nouvelles pièces. Ça, c'était bien aussi. J'ai écrit une œuvre pour la commémoration de la bataille de Verdun, Proluctus, ça s'appelle. J'ai écrit une œuvre une fois qui s'appelle Tableau symphonique, qu'on a joué aux Invalides, où j'avais même employé l'orgue. Puis j'ai écrit aussi pour l'orchestre à cordes, une petite suite qui s'appelle En habit d'Arlequin. Et puis j'ai orchestré le Divertimento pour saxophone à la demande de Michel Nouveau, qui était le soliste à l'époque. Qui m'a demandé tout de suite d'en faire une version. Alors ça existait pour piano, pour orchestre à cordes, et on a fait orchestre d'harmonie. Et depuis, ça marche beaucoup. J'étais ami avec Dondaine, Désiré Dondaine, qui était avec moi à la classe de composition au conservatoire. Et puis j'ai eu un second prix de fugue l'année où le directeur du conservatoire, Claude Delvincourt, a imaginé d'écrire une fugue pour quatuor à vent, c'est-à-dire flûte, hautbois, clarinette, basson. On s'est dépêché d'écrire pour les quatre instruments. Et à l'époque, ça a été joué le jour du concours par quatre instrumentistes de la garde. Je ne peux pas vous dire qui, je ne les connaissais pas à l'époque. Ça se passait en 1950, je crois. Oui. C'était l'ouverture tableau, ça a été une commande de la Confédération musicale de France pour un concours qui s'appelait la Lyre d'or, et ça se passait à Vichy. Et c'était en 1959. Voilà. C'est comme ça que j'ai commencé à écrire pour Harmonie. Florent Schmitt avait dit, quand on lui demandait comment vous avez écrit telle œuvre, et à chaque fois il répondait c'est une commande, c'est une commande, c'est une commande. Alors finalement, on pourrait penser que, et ça c'est vrai, que ce qu'on écrit c'est souvent une commande, soit d'un interprète, soit d'un orchestre, soit pour un concours. Ben, j'ai écrit une sonate pour violon et piano, et ça j'ai écrit à l'époque parce que j'en avais envie, mais c'était pas du tout une commande. Je viens de terminer un quatuor à cordes, alors parce qu'il faut quand même faire ça une fois dans sa vie, et c'est pas une commande non plus. Enfin, tout le monde vous dit toujours quand est-ce que vous m'écrivez quelque chose. Ça. Et c'est comme ça que j'écris beaucoup pour le saxophone, parce que j'ai bien connu Marcel Mull. Et la première œuvre que j'ai écrite, c'est la Sérénade, qui n'a pas d'ailleurs été transcrite pour harmonie, celle-là. Et puis après, le Divertimento, qui était un morceau de concours. Et puis après, même un quatuor saxophone avec harmonie. Forcément, avec un orchestre pareil, ça donne envie quand même d'écrire dans cette formation et de chercher des nouveautés dans les sonorités, dans l'orchestration, des choses comme ça. Je trouve qu'il faut écrire de la musique avec ces couleurs-là. C'est comme ça que je fonctionne, si on peut appeler ça comme ça. J'entends le son d'un instrument, si j'écris pour le saxophone, ou si j'ai pas la même musique que si j'écris pour le violon, ou pour une clarinette, ou une flûte, quand même. Il faut entendre les instruments. C'est pour ça que les transcriptions, c'est bien, mais c'est souvent très difficile, et à mon avis, je vais vous raconter une anecdote, une réflexion d'un quelqu'un que j'ai rencontré un jour, après un concert, qui me dit, est-ce que vous avez une idée d'une œuvre qui serait impossible à transcrire pour harmonie? Alors comme ça, au débotté, je ne sais pas quoi. Je pense à quelque chose et je lui dis oui, par exemple, la symphonie inachevée de Schubert, Le début, je ne vois pas très bien. Non, je pense que ça, c'est pas possible. Ah bon, parce qu'on l'a joué dimanche dernier. Vous savez, le prélude après-midi d'un faune, on l'a essayé une fois et j'ai trouvé que c'était catastrophique. Alors, comme j'avais mon ami d'enfance, Yann Epwesch, qui était la flûte solo, je lui ai dit, écoute, je vais essayer d'en faire une version pour toi. Quand même qu'il y ait un prélude après-midi d'un faune harmonique, ça devient. Je crois que je m'y suis attaché. Il y a une toute petite formation, bien sûr. Et après, il était très content parce que j'avais mis quatre flûtes. Hein. Alors, il trouvait que le quatuor de flûte, c'était une bonne idée en prélude après-midi d'un faune. Alors, la première année que je suis arrivé, il y a eu un problème pour le 14 juillet. J'étais à une réunion pour le programme et je propose une fête de Debussy pour jouer au 14 juillet, comme ça. On était sur une des Champs-Élysées, d'ailleurs, ça se passait là, cette année-là, en 73. Et quand j'ai parlé de Debussy, il y a eu un tollé général parmi tous ces militaires de haut grade qui ont dit comment Debussy, c'est la musique de chambre, et on n'y pensait pas. Je dis, écoutez, pourtant ça a été joué au 14 juillet, quand ça se passait au Bois de Boulogne, du temps ancien de Debussy. Bon, et ben, si ça ne va pas, et je me lève, et je quitte la séance, comme ça, vous savez, je n'avais pas beaucoup d'idées de la hiérarchie militaire, et le sous-chef, le chef adjoint de l'époque, lieutenant Gallet, me suit, et me dit, c'est catastrophe, on est parti, vous vous rendez compte. On quitte la séance là-dessus, après Debussy, et en rentrant au bureau de la garde, alors je me coupe le téléphone que le projet était accepté. Mais alors, le problème, c'est qu'il fallait adapter le fait de Debussy, parce que tout l'orchestre devait être là, c'est-à-dire ce qu'ils appelaient avant l'harmono-symphonie. Donc, tout le monde, les cordes, tout le monde était là en grande tenue, avec le bicorne encore sur la tête. Ben non, pas de congé au 14 juillet, bien sûr, vous le savez bien. Donc, avec le bicorne, et on a fait, le lieutenant Gallet l'a fait avec moi, parce qu'il fallait se faire vite. On a orchestré en vitesse, on a fait des parties de clarinette, saxophone, basse, tout ça, en plus de l'orchestre normal de Debussy. Et c'est la seule fois où on a joué comme ça avec tout le monde. Ça sonnait pas si mal que ça. Mais on n'a pas entendu la fin parce que comme ça finit piano, comme vous savez, les avions sont passés. Ça fait 6 minutes, mais à un poil près, les avions sont passés sur les derniers coups de cymbale, la petite cymbale de la fin. Et alors un jour, un chef de corps, un général, qui me dit, expliquez-moi la différence entre un orchestre symphonique et un orchestre d'harmonie. Alors bon, ça recommence. Et je lui dis, écoutez, venez un jour à la salle de répétition, on vous fera la démonstration. Alors on lui a joué une fois le fait de Debussy en harmonie, et après on lui a joué en symphonique. Voilà. Je pense pas qu'il ait vu une grosse différence. Mais, enfin, mais à part ça, on n'a jamais rejoué en harmono-symphonique. Je me suis toujours posé la question de savoir pourquoi François-Julien Brun avait imaginé ça. Est-ce que c'était pour une question de sonorité, d'orchestration, d'emploi général de l'orchestre? Je ne sais pas. J'ai pensé que peut-être il voulait joindre la sonorité des violons et puis la précision des clarinettes, je ne sais pas, et des saxophones. Je ne sais pas. À une époque de mes prédécesseurs, donc je pense à Gabriel Parès et Pierre Dupont, voilà, faisaient de la musique pour des gens qui n'allaient jamais au concert, je pense. Hein. C'est d'où on parlait tout à l'heure de la musique de kiosque. Alors les gens n'avaient pas de disque ou presque pas, n'allaient pas au concert parce qu'il n'y avait pas beaucoup de concerts ou c'était trop cher. Donc ils écoutaient ça et c'était vraiment un effet intéressant au point de vue culturel. Mais à notre époque actuelle, enfin à l'époque où j'ai pris l'orchestre, donc ça remonte déjà assez loin, je pense que là, il n'y avait plus beaucoup d'intérêt à jouer dehors cette musique-là. On se trouvait confronté à des gens qui venaient écouter des transcriptions et qui disaient « Non, je préfère entendre l'original ». Alors que faire? Jouer de la musique contemporaine, comme vous savez qu'il y a peu de gens qui s'intéressent à la musique contemporaine, c'était un autre problème. Moi, une fois, j'ai refusé la cinquième de Beethoven. J'ai dit « Écoutez, non, c'est pas possible. On ne peut pas vous jouer la cinquième de Beethoven. On n'est pas là pour ça ». Et le type m'a dit « Mais moi, je remplis ma salle avec Beethoven ». Alors bon, c'était très difficile de faire des programmes, à la fois pour contenter le public, et l'organisateur qui, lui, ne voyait que sa caisse. Tout ça était très, très difficile à gérer. Et on en était arrivé à jouer quelquefois un peu toujours la même chose, quoi. La tournée des États-Unis en 75, évidemment. On jouait les tableaux de l'exposition, et dans la musique contemporaine, on jouait les forains de Sauguet, on jouait des chorales de Bach. Et je pense qu'à l'époque, ils ne connaissaient pas beaucoup toute cette musique-là. Je pense que c'est ça. Vous parlez des programmes qu'on faisait, ça, c'était très difficile à gérer. en fonction des organisateurs de concerts, surtout, qui étaient très exigeants et qui refusaient systématiquement de la musique de nos jours, de l'époque, quoi. Parce qu'ils se rappelaient, enfin, ils se rappelaient, c'était surtout la Columbia, l'organisateur, qui se souvenait de la tournée qui avait lieu bien avant de l'Orchestre de la Garde aux États-Unis, oui. Alors, on arrivait déjà avec un prestige. Bah, la première, c'était les États-Unis en 75, et puis après, ça repassait beaucoup plus tard au Japon. Là aussi, c'était pas une tournée, c'était un concert à Moscou et un concert à Leningrad en 73 aussi. Oui, c'était un échange avec la musique de Moscou, je pense qu'il est venu à Paris après. Mais il était bien, l'orchestre russe, oui. On l'a entendu là-bas. Et puis, comme vous savez, comme ils sont, on a fait un concert où on a joué la moitié du concert et les Russes ont joué la moitié. Évidemment, on a beaucoup applaudi les Russes, mais pas du tout nous. Oui, non, ils sont pas chauvins. Vous savez, moi, je suis allé au Japon la première fois en 1976, diriger des orchestres là-bas. Et j'ai fait connaissance, bien sûr, de l'organisateur, qui était un grand impresario japonais à l'époque. Et naturellement, je lui ai parlé de l'Orchestre de la Garde, et ça l'a intéressé. Donc, il a pensé à tout ça, et il a fait une demande qui n'a pas abouti, parce qu'un jour, on a appris que c'était refusé. On va, comme vous savez, avec l'Orchestre à cordes, on jouait à l'Élysée, le soir, pour un dîner. Et ce jour-là, j'avais reçu, justement, le matin, le fait qu'on n'allait plus au Japon, parce que ça avait été refusé. Refusé par qui ? Par le président. Je ne me dégonfle pas, je vais voir le président, qui était président Giscard d'Estaing, et je dis, monsieur le président, voilà, j'ai appris ce matin que vous vouliez pas qu'on aille faire une tournée au Japon. Il me dit non, vous savez, comme il parlait, il me dit non. Écoutez, ce non, je ne veux pas, parce que c'est comme si la musique des Horse Guards de la reine d'Angleterre venait jouer aux Galeries Lafayette. Et je lui dis, mais non, monsieur le président, c'est pas du tout les Galeries Lafayette, enfin, jouer, on fait des vrais concerts dans des salles. Il m'a dit non. Donc c'est la première expérience de tourner au Japon. Et en 81, comme vous savez, ça a changé de président. Alors, entre-temps, j'avais fait connaissance d'un autre après ça, parce que celui-là était fâché, forcément, le japonais, vous les connaissez, il était sérieusement fâché. Alors, avec un autre officier qui a fait une demande, et comme probablement ça se passe assez facilement, cette fois-là, ça a marché. Donc, on a fait la première tournée. Alors là, c'était en 84, voilà. Et ça a eu beaucoup de succès. On n'a pas parlé que le premier disque qu'on a fait, on a eu quand même le Grand Prix du disque de l'Académie Charles Cros. C'est le disque de la musique russe. Et après, on a fait encore trois autres disques. On a enregistré les Forains Sogé, on a fait... Et alors, il y a eu l'émission avec Serge Kaufmann, La musique est à tout le monde. Alors ça, c'était la télévision. C'était une émission amusante qu'avait imaginée Serge Kaufmann. Enfin, il y avait des annonces et des gens qui arrivaient, je voudrais bien entendre Dalof. Après, on se réunissait avec Serge Kaufmann, on disait, bon, ça, on peut jouer ça, on peut pas. Ça. Et puis, il faisait venir les gens à l'émission qui expliquaient pourquoi ils avaient demandé cette œuvre-là. On a fait des belles émissions. Et alors là, on employait à la fois l'orchestre d'harmonie ou l'orchestre symphonique, selon les œuvres que les gens demandaient. On a fait le l'entente du concerto de Ravel. Et je jouais le piano, sans chef, bien sûr. Le piano, on faisait l'entente. Et on avait mis le cor anglais, ça c'était mon rêve. On avait mis le cor anglais dans le creux du piano. Je me souviens, par exemple, que j'ai demandé quand je suis arrivé, comme je connaissais bien Henri Dulieu, compositeur que tout le monde connaît, je lui ai demandé, est-ce que vous me feriez l'honneur, le plaisir, etc., d'écrire une œuvre pour l'Orchestre de la Garde. Et il m'a répondu, oui, j'aimerais bien le faire, mais je ne le ferai pas, parce que ça sera une œuvre forcément difficile, et ce sera seulement l'Orchestre de la Garde qui pourra jouer. Et pour un compositeur, c'est pas très intéressant de n'être joué qu'une fois. Par contre, j'ai eu après Raymond Loucheur, qui était directeur du conservatoire, que j'ai connu au début quand je suis rentré comme professeur. J'ai fait la même proposition et lui, il nous a écrit une œuvre pour l'orchestre d'harmonie, pour l'orchestre de la garde. Qu'on a joué, on a créé, je crois, à Lille une première fois, on l'a rejoué un peu et puis... Mais il y a eu quand même une année entre le ministre de la Culture et le ministre de la Défense. Il y a eu deux commissions créées sous l'égide de ces deux ministres. Alors d'un côté, je présidais cette commission en tant que du côté défense, et du côté culture, c'est une ancienne élève à moi qui était Marie-Yvonne Le Gallo, et qui s'appelait Marie-Yvonne de Saint-Pulgent. J'avais eu dans ma classe qui était une brillante pianiste, mais qui avait fait une carrière, elle sortait de l'ENA, quoi. Alors on s'est retrouvés comme ça, et on a signé, les ministres ont signé, une espèce de grands livres, là, comme ça, ils ont signé en disant, voilà, c'est pour faire une promotion de la musique nouvelle pour toutes les musiques militaires, etc. qui existe, donc pour renouveler le répertoire, le patrimoine, etc. Après la signature, suffit, parce qu'ils ont fait les deux grands livres, ils doivent être rangés dans un placard. C'est dommage, parce que peut-être qu'on n'aurait pas eu des chefs-d'œuvre à tous les coups, mais on aurait peut-être eu des choses intéressantes, mais non, ça ne s'est pas fait non plus. Le premier concert que j'ai fait était à côté de Strasbourg. C'était mon premier concert avec l'orchestre, et ça, c'est un très très bon souvenir, parce que tout le monde s'est donné à fond dans le sens de dire, voilà, un nouveau chef, on va voir ce qu'il fait, et alors on va aller avec lui, quoi. Alors après, évidemment, c'est la tournée des États-Unis en 75, qui a été quand même... Pour moi, le concert à Carnegie Hall, quand je suis monté sur le podium, j'ai revu tout l'orchestre, et j'ai vu que chacun disait, là, c'est le moment où on doit donner le meilleur de nous-mêmes. C'est aujourd'hui ou jamais. Ça c'est très bien senti. Et comme il y avait une salle pleine, et puis dans cette salle mythique, là, évidemment, ça, c'est un concert. Bon, il y en a eu d'autres. Il y a eu Washington, Louisville, c'était évidemment moins prestigieux. Mais c'était une belle tournée, quand même, avec des moments difficiles. Hein, toute la journée en autobus, et puis faire le concert sans raccord, comme ça. Enfin, quand même, notre ami François Poulot a joué 34 fois Beatles. Trompette solo a joué quand même les tableaux d'une exposition, comme ça. Les Américains avaient demandé un seul programme. Voilà. Donc, c'est bien et c'est pas bien, parce que, évidemment, ça évite de reprendre des répétitions, mais enfin, quand même, ça, c'est un très, très bon souvenir. J'ai un bon souvenir, alors, des chorales de Bach, dans le sens où j'ai choisi, avec mon ami Jean-Claude Henry, à l'orgue, qui m'a joué ces chorales de l'orgue Goldbüchlen. Il me les a joués, puis je disais, oui, celui-là, ouais, et celui-là, qu'est-ce que t'en penses? Non, pas celui-là. Enfin, on a choisi comme ça. Après, j'ai fait l'orchestration, et puis je l'ai travaillé avec l'orchestre. C'est surtout du côté des saxophones. Enfin, ailleurs, j'ai changé, je dis, là, le hautbois, non, on va le mettre à la flûte, au contraire. Bon, j'ai travaillé vraiment, c'est la seule fois, finalement, où j'ai fait ça, sur une transcription, parce que ça valait la peine, sur les chorales de Bach, de travailler directement avec l'orchestre, avec le matériel sous la main. Ça, c'est vraiment agréable, mais tout le monde était tout à fait d'accord. Et j'en suis arrivé à me dire, mais non, les saxo-sopranes seront bien meilleurs, dans le sens de la sonorité que je cherche, que les saxo-alto. On a changé, on a mis trois saxo-sopranes à la place des saxo-alto. Et voilà, ça a été le point le plus important. Donc ça, c'est un très bon souvenir, aussi de travail avec l'orchestre. Les trois danses de Maurice Duruflé, j'ai trouvé un jour dans la bibliothèque une transcription pour harmonie. J'ai dit, on va essayer, mais avant, je vais téléphoner à Maurice Duruflé. Il était comme moi, professeur d'harmonie au conservatoire. Je lui téléphone, j'ai dit, bonjour maître, j'ai trouvé une transcription de aux trois danses. Alors, est-ce que vous êtes d'accord? Est-ce qu'on peut les jouer? Silence complet. Puis au bout d'un certain temps, j'entends la voix de Maurice Duruflé qui me dit, mais vous avez un orchestre symphonique? Ah, je dis oui, évidemment. Mais il dit alors, jouez-les en symphonie. Et curieusement, il n'y a pas de signature. Hein. Il ne savait pas lui non plus que ça existait. Et on ne sait pas qui a fait cette transcription, qui est très bien faite d'ailleurs. Mis à part que je vois encore Michel Nouveau, écoutez, ça fait 30 ans que je demande qu'est-ce qu'il faut jouer là, les harmoniques de violon, qu'est-ce qu'il faut jouer. Bon. Si vous connaissez bien l'orchestration et tous les instruments, ça devrait bien se passer. Mais si c'est quelqu'un qui ne fait que recopier la partie de violon ou clarinette, la partie d'alto, saxo, etc., sans se soucier à la fois de la tessiture et des coups d'archet, surtout, ça m'a toujours étonné, que les gens remettent les coups d'archet ou clarinette. Dans le boléro, c'est flagrant. On remet les coups d'archet, et c'est pas difficile pourtant. Comme ça, il est doublé dans le tutti de la fin, comme c'est doublé par les vents, et qu'à prendre les liaisons des flûtes ou des hautbois et des clarinettes, et les remettre aussi aux instruments avant qui sont dehors. Mais non, ça a été recopié tranquillement avec des liaisons de coups d'archet. Ça m'a toujours étonné. Alors si des gens qui font ça, c'est pas des transcriptions, ça, c'est de la copie. Alors pour revenir au bon moment aussi, alors évidemment, il y a les tournées du Japon qui ont été épatantes aussi. Et puis alors, le dernier concert que j'ai fait, à la Madeleine, on a joué justement la symphonie des HP, dont on parlait tout à l'heure, pour mon départ, quoi. Ça a été un beau concert aussi, ça. Parce que là, un peu, comme à Carnegie Hall, on a retrouvé un petit peu tout le monde qui disait quand même, c'est le jour où on doit se donner à fond. Enfin, comme on dit, avec des bons souvenirs. Hein. Oui, alors si on veut, le mauvais souvenir, c'est quand on a fait le concert d'adieu aux Invalides et que le chef de corps m'a dit, mais vous ne pouvez pas diriger l'orchestre. puisque vous êtes parti depuis le mois de février. Alors c'est pour ça que j'ai joué. J'ai joué les variations symphoniques de Franck et le concerto de Ravel. Je n'ai pas pu diriger. Oh, on ne peut pas dire que c'est un mauvais souvenir. Non, non, c'est un bon souvenir quand même, mais j'avais trouvé ça un peu bizarre. Quand je suis arrivé, j'ai fait quelques prises d'armes sur les Champs-Élysées, parce que le lieutenant Gallet, lui qui connaissait bien le travail là, était malade. Ah, tous les chiens m'aboyaient après. On descendait les Champs-Élysées pour tout. Alors, j'ai fait ça. J'ai fait une prise d'armes, je ne sais plus où, du côté du Val-de-Grâce. Alors on me disait, vous allez à droite, vous allez à gauche. Bon. Et le premier truc que j'ai vu dans la cour des Célestins, quand j'ai vu l'orchestre, après, mélangé un peu avec quelques-uns de la batterie en phare, quand j'ai vu les trombones devant, tout rouillé, les pantalons en tire-bouchon, alors je vais voir et je tombe sur Barbès. Il me dit, vous pensez pas que j'allais sortir mon beau trombone dans la cour, non? Parce que moi, j'étais le seul à pas avoir fait mon service militaire dans la musique. Tout le monde avait fait son service militaire dans la musique. Et avait pris tous les défauts qu'ont une musique militaire d'appeler. Bon, alors, j'ai été voir le colonel Harlem, qui était vraiment chef de course avec le général Laurence, c'est celui qui est, pour moi, le plus réceptif à ce que je pensais. Et je lui dis, voilà, on ne peut pas continuer comme ça. Et le métier de musicien, là, comme il fait, c'est deux métiers différents. Vous ne pouvez pas avoir un hautbois solo qui joue le tombeau de Couperin à la salle Pleyel merveilleusement, et le lendemain matin, le même, dans la cour des Célestins, impeccable, qui va jouer un part doublé. Là, c'est pas possible. C'est deux métiers différents. Pour le faire bien, il faut deux personnes différentes. C'est pas possible. On ne peut pas faire bien ces deux choses-là, parce que c'est trop, trop différent. Et il a compris. C'est extraordinaire. Il a dit d'accord. Alors, si vous voulez, plus de prise d'armes, c'est fini. Vous ne ferez que les concerts. Et je me souviens, dans la cour de l'Élysée, par exemple, une prise d'armes là, alors, il y avait déjà une différence des shakos, vous savez, les plumets n'étaient pas pareils. Ils n'étaient pas habillés tout à fait pareil que l'orchestre. Alors déjà, puis en plus, eux, c'est leur métier, ils étaient très beaux. Ils étaient presque tous grands, de la même taille, alors que dans l'orchestre, il y avait les petits, il y avait les moyens, et puis les costumes étaient plus ou moins fripés. Voilà. Non, mais c'est vrai, c'est simple, c'était pas un métier, quoi. Seulement, la batterie fanfare n'avait pas de clarinette, n'avait pas de flûte, n'avait pas de saxophone, n'avait rien, c'était une batterie fanfare. Ils se sont trouvés à être obligés de jouer des hymnes nationaux. Et c'est là où il a fallu qu'ils s'étoffent petit à petit à petit. Et c'est comme ça que finalement ils se sont appelés musique, parce qu'ils devenaient très importants. Ils avaient un effectif d'une vraie musique. Voilà, c'est ça. Mais là, on ne m'a pas demandé mon avis, ça s'est fait comme ça. Un jour, j'ai vu sur la porte, ils avaient changé la plaque. Au départ, à chaque fois qu'un organisateur demandait la musique, il pensait avoir l'orchestre, et il voyait arriver. Ça a posé des problèmes au début. Hein. Les organisateurs de concerts, par exemple, dans les programmes, on ne pouvait pas. Si on propose la petite symphonie Gounod pour instrument avant ou la symphonie pour instrument Stravinsky, l'organisateur dit non, parce que moi je paye pour 80 musiciens. Si j'en vois que 9 sur la scène ou 13 pour Stravinsky, ça ne me suffit pas. Et voilà, par exemple, un genre de blocage de programme de concert. C'est un peu dommage. C'était le président Giscard d'Estaing. Son idée, il voulait que la Marseillaise, l'hymne national, soit grandiose comme l'hymne anglais. Bah, c'est difficile de transformer la Marseillaise, ça n'a rien à voir. Il avait lu dans, je crois que c'est Goethe qui dit dans La Retraite, je ne sais quelle bataille, les soldats chantaient la Marseillaise, c'était grandiose comme un Tédéum. Je ne sais pas, il devait être peut-être en retraite, il devait peut-être la chanter lentement, je ne sais pas. Alors donc, il voulait absolument ralentir la Marseillaise. D'ailleurs, les chansonniers de l'époque avaient dit que c'était pour qu'ils puissent la jouer plus facilement à l'accordéon. Ça, c'était pas de mon ressort. Alors, j'en avais profité pour, en tant que professeur d'harmonie au conservatoire, de la réharmoniser un petit peu, parce que ça valait la peine quand même de refaire et de la réorchestrer. Et je l'avais mal changé de ton. On l'a joué en la bémol majeur, lentement. Alors, ça a tout de suite fait un scandale, mais c'était aux Invalides, dans une prise d'armes. Oh là là, on en a beaucoup parlé. Alors bon, l'armée en si bémol quand même. Je n'en ai fait un arrangement pour l'orchestre de l'opéra en do majeur. Alors en la bémol, ça donnait un caractère solennel quand même. Enfin, c'est ce que je pensais. Mais ça, les gens ne s'en aperçoivent pas beaucoup. Et puis on l'a enregistré avec Mireille Mathieu, vous vous souvenez peut-être. On l'a fait en sol majeur. Il a fallu que je fasse ça en sol majeur. Oui, j'ai bien travaillé. Je n'étais pas venu pour faire ça, mais enfin bon, c'était assez sympathique quand même. nièce de Giscard. Vous savez, finalement, un jour, il a trouvé que c'était trop long, quand même. Forcément, vous savez, le général disait à son chef d'état-major, vous n'oubliez pas pour demain matin, la Marseillaise part trop vite. Hein, le président, comme ça, oui, qui refilait au commandant, il disait, vous direz au chef de musique, hein, pas vite, hein, la Marseillaise, d'accord, qui refilait au sous-chef de musique. Et le matin, les instruments un peu froids dans la cour de la caserne, ça partait à 72 à la noire. Quoi. Alors un jour, on l'avait enregistré dans notre salle de répétition. Et puis, quand je suis allé voir le président, il disait, je lui ai fait écouter la Marseillaise. Et là, il y a une petite anecdote amusante, parce qu'il a demandé un appareil, c'est une petite cassette, vous savez, à l'époque, il a importé cet appareil. On a mis la cassette dedans, et au moment où il me disait, vous savez, c'était vraiment trop lent, j'ai entendu le courrier, c'était trop lent, et j'appuie sur le bouton de l'appareil, et on entend, ouais, parce que ça passait en 9,5 au lieu de 19. Enfin, on l'avait ramené à 110, c'est pas vite, ça, par rapport à 126, qui est là. Canon des armées. Oui, bah, ça nous a occupé. Enfin, moi, ça m'a occupé pas mal, quand même. Mais vous savez que j'avais fait des recherches, il n'y a pas de manuscrit, forcément, puisque Roger Delisle l'a chanté, là-bas à Strasbourg, pour la première fois, accompagné au clavecin, par qui, on ne sait pas non plus, et comment, on ne sait encore moins. Et quand on regarde le chant de Marseillaise, par rapport à ce qui existe maintenant, il y a 14 différences dans la mélodie. Déjà, le début, c'est pas fa-fa-fa-si, c'est fa-ré-fa-si. Ça commence déjà comme ça. Je l'avais dit, ça, au président. Ben, si vous savez, au fur et à mesure, les gens le chantent et puis changent les choses. Selon la voix, c'est plus facile. Alors, j'avais dit au président Giscard, si vous voulez remettre l'original, personne ne va reconnaître l'histoire. Là. Tout le monde va dire, qu'est-ce qu'on joue, là ? J'ai entendu, ça, c'était pendant la guerre, j'ai entendu la mère de Debussy, donc par l'Orchestre National, c'est Désiré Engelbrecht qui dirigeait. Je me souviens très bien, comme on habitait à Marseille, une maison où on voyait la mer. Hein. C'était une petite maison de rien du tout, mais on voyait la mer. Alors j'aimais bien monter sur une terrasse où je regardais la mer. Et quand j'ai entendu Debussy, j'ai revu évidemment de l'eau mini sur la mer. Moi, j'ai vu le petit bateau, les moutons, comme on disait, de la mer qui chahute comme ça. J'ai vraiment vécu la mer de Debussy comme ça. Je devais avoir 9 ans, quelque chose comme ça. Et je regrette bien parce que après, en dirigeant la mer, je ne vois plus rien maintenant. C'est vraiment dommage. Donc, la musique de Debussy, quand même, m'a impressionné. Donc, je suis allé au concert, et puis je suis allé au conservatoire à Marseille. Alors, quand je vais dans ces conservatoires, d'ailleurs, que je rencontre les directeurs, je dis, vous savez, en 1942, j'étais ici, j'ai eu des diplômes. Alors, ils vont rechercher dans les archives, et ils me donnent une photocopie de mes diplômes de première mention de solfège, première mention de piano à l'unanimité chez Madame. Le directeur, c'était André Odoli, et c'était Fernand Chauchard, qui était professeur de Barbizet. Et puis avant, j'avais été à Rennes, au conservatoire de Rennes. Tout ça, ça se passe entre 40 et 43. En 43, on est rentré à Paris, et je suis allé rentrer au conservatoire, et j'ai eu ma médaille de solfège le 6 juin 44. 10 ans après, j'ai eu le prix de Rambourg 54. Piano, accompagnement piano, avec Daniel Boulanger, l'harmonie avec Henri Chaland, contrepoint et fugue avec Noël Gallon, la direction d'orchestre avec Forestier, la composition avec Tony Aubin, et qu'est-ce que j'oublie, la musique de chambre avec les Pasquier, et puis voilà, 54, 3 ans, la Villa Médicis. La première année, j'ai écrit un quintet, vous savez, flûte, harpe et trio à cordes. C'est une musique de chambre la première année, la seconde année c'était une symphonie, je ne sais plus ce que j'ai fait. Là, si j'ai écrit la sérénade de saxophone, j'ai fait ça là-bas, oui. Mais on n'avait pas beaucoup envie de travailler à la Villa Médicis. À l'époque, on admirait beaucoup, parce que ça arrivait seulement, là, Bartok, Prokofiev, Stravinsky, on connaissait quand même pas mal, parce que chez Nadia Boulanger, on en faisait beaucoup. Mais à l'époque, vous savez, on était tous comme ça, on sortait de l'harmonie, le fugue, on va point, et ce qui venait derrière, on essayait d'écrire de la musique, comme on essayait d'être original, sans savoir ce qu'on faisait, mais vraiment, c'est plus du tout comme maintenant, surtout, il faut rien connaître pour écrire de la musique. Il y a Michel Legrand. On était au solfège ensemble déjà, puis on s'est retrouvés à la classe d'harmonie, à la classe de Chenet du Boulanger aussi. Il y avait Ginette Keller, il y avait Noël Lee, des mecs. Hein. Et puis chez Tony, on en parlait tout à l'heure, il y avait Dondaigne, chez Jacques Castoret, bien sûr. Bon, puis après la Villa Médicis, ça a été moins drôle parce que c'était l'Algérie, la Kabylie. Je me suis retrouvé dans les chasseurs alpins, donc pas du tout à la musique. Un commando de chasse en grande Kabylie. J'ai fait les derniers 6 mois à la musique d'Alger, où j'ai rien fait parce que le chef m'a dit j'ai pas besoin de vous. Et autrement, j'ai rencontré Gérard Poulet, Gabriel Tecchino, ils avaient fait tout leur service là dans la musique. Quand j'ai remis les mains sur le piano, j'ai joué comme ça, une valse de Chopin pendant 16 mesures peut-être. Et puis maman s'est bloquée complètement. Alors c'est revenu, bien sûr, mais pas tout de suite. On fait leur faire les exercices de Czerny et tout ça pour réadapter les muscles, parce qu'il n'y avait plus rien du tout. Mon esprit marchait encore, puisque je joue par cœur une valse de Chopin. Puis à la fin, j'ai dit, comme ça, mais je dis, mais qu'est-ce qu'il y a là? Eh bien, c'est défini. Ça fait un drôle d'effet, vous savez. J'ai eu un prix à Moscou. Le premier concours de Tchaïkovski à Moscou, en 58. 59, je suis parti, je suis revenu en 61. Et puis là, rien, je n'avais plus rien à faire. Oui, on me disait, on ne pensait pas vous revoir. Ça fait plaisir, toujours. Hein. L'autre plus gentil disait, tiens, vous n'avez pas été blessé? Non, vous n'avez rien eu? Non. Pas moi, non. Il y en a qui ont laissé leur peau, mais pas moi. Jusqu'au moment où Raymond Louchard, dont on parlait tout à l'heure d'ailleurs, m'a téléphoné un matin, m'a dit, qu'est-ce que vous faites? Vous êtes libre? Oui, venez me voir dans une demi-heure, je vous attends à mon bureau. Et c'est parce que la classe de Jeanne Leleu était très malade, et il avait besoin d'un professeur pour faire l'intérim. On m'avait carrément oublié comme pianiste. Hein. Et j'ai été invité plutôt comme chef d'orchestre, curieux, je ne sais pas pourquoi. Hein. Et il y a eu l'époque où j'ai beaucoup dirigé les orchestres du dimanche, vous savez, chez Colonne, chez Paldo. Et à la Société des Concerts, c'était un très bon souvenir pour moi, parce que l'orchestre était vraiment très bon. Et puis, c'était très sympathique, les programmes bien sûr classiques, mais un jour, on m'a demandé comme ça, pour dimanche prochain, la Symphonie de Franck, il y avait, comment ce chef s'appelait, un chef italien, ne vient pas lorsqu'il pouvait faire le concert dimanche prochain. Oui, avec la Symphonie de Franck, oui. Je connaissais, mais enfin quand même, j'ai fait le concert au pied levé. D'ailleurs, très gentiment, ils ont annoncé au public que j'avais remplacé au pied levé. Oui, j'ai été une fois engagé au Japon, d'ailleurs, à NHK, et puis ça ne s'est jamais fait, parce que les musiciens, paraît-il, je ne sais pas ce qui est vrai dans tout ça, n'ont pas voulu de moi, parce que c'était militaire. Mais vous ne pouvez pas empêcher les... Surtout, je pense au Japon, vous savez bien. Donc, je leur en veux pas s'ils n'ont pas voulu de moi à cause d'une casquette, voilà. On a vite fait de cataloguer les gens. Hein. Oui. Bon, on me dit que je suis le seul, c'est un compositeur qui écrit le plus pour le saxophone. C'est possible, hein. Alors, on a vite fait de mettre une casquette de saxophoniste sur la tête. Hein. Et je me souviens du général Valéry, qui était des gouverneurs militaires de Paris, qui lui était quand même mélomane. Il m'a demandé pour un concert qui avait lieu tous les ans. Il a dit, moi j'aimerais bien que vous pensiez à un programme où il y aurait l'influence de la musique espagnole sur la musique française. Alors ça c'était facile avec Debussy et Ravel. Et alors ça j'ai un très bon souvenir, c'était vraiment... J'ai eu un autre gouverneur qui m'a dit, moi vous savez, après Beethoven, je connais plus personne. Ah bon, Beethoven, je sais pas, on sait rien. Donc, il avait demandé, il aimait bien un concerto de trompette. Bon, et puis, j'aime bien le boléro, il me dit, hein, le boléro de Ravel, c'est Ravel, hein, le boléro, oui. Bon, alors, on demande à Guy Touvron de venir jouer Haydn, ou Hummel, ce qu'il veut. Alors, il choisit Haydn, très bien, bien matin. Allô, général, allez. Ça va pas, votre programme. Ah, pourquoi, mon général? vous savez, le concerto de le trompette, comment, Haydn, oui, Haydn. Et le boléro, ça fait doublon. Là, vous restez sans voix. Hein. Ça fait doublon, comment ça? Ben oui, c'est la même chose. Non, c'est pas tout à fait pareil. Non, je vous assure, en général, c'est très bien. On commence par le concerto, après il y a une symphonie, puis on finit avec le boléro. Non, je vous assure. Oh, vous me le garantissez? Oui, je vous le garantis. Je me dis, mais qu'est-ce qu'il a bien pu trouver? Bon, alors, je sais pas, mais j'ai pensé que concerto de trompette et les trompettes dans le boléro, ça fait doublon. Ça peut être que ça. Une autre anecdote, même concert, une autre année, même général, je joue la symphonie inachevée de Schubert. Il me téléphone un matin. Dites donc, votre symphonie, elle a un défaut. Symphonie inachevée, un défaut. Ouh, j'allais prendre ma partition pour voir ce qu'il avait trouvé. Il me dit non, c'est parce qu'elle est inachevée. Ah bon, ça va. Je dis, vous savez, il y a des gens qui se sont penchés pour la terminer, mais enfin, heureusement, il ne m'a pas demandé de la finir. Ça, je m'en rappellerai plus. Je ne m'y attendais vraiment pas. J'étais tellement épaté. Un défaut dans la symphonie inachevée. Je ne vois quand même pas trouver une faute. Alors, qu'est-ce que ça peut être? Eh bien, voilà, elle était inachevée. On en arrive à cette chose que l'orchestre d'harmonisation, peut-être qu'on imagine que ça a été fait pour jouer dehors. Jouer dehors des œuvres symphonique jouée dehors, donc avec un orchestre d'harmonie pour qu'on l'entende mieux. Et on en était arrivé à ne jamais jouer dehors et jouer que dans des salles avec un orchestre d'harmonie. Alors, oui, ça, c'est un paradoxe, hein, c'est assez curieux, ça. Ça, c'est la culture, hein, quand même, non ? Vous parliez tout à l'heure de la hiérarchie des gens cultivés qui ne connaissent pas beaucoup la musique, c'est vrai, mais ceux qui en connaissent un peu le connaissent évidemment par l'orchestre symphonique et non pas par l'harmonie. Sinon, l'harmonie ne connaît que les marches militaires.